Comme je disais ce matin, c'est une joie d'être avec vous et de nouveau d'ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais le faire dans le premier livre de Samuel. Merci à notre frère et son épouse de nous inviter dans son église. 1 Samuel chapitre 21. Je vois un petit bonhomme qui a soif de Dieu là. Il aime le Seigneur. Alors, 1 Samuel, chapitre 21, et j'aimerais lire simplement deux versets. Ensuite, j'expliquerai le contexte de ces versets. Donc, au verset 8, voilà ce que nous lisons. « David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée ? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la. Il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y a point de pareil. Donne-la-moi. Amen. » Alors, le contexte est celui-ci. Vous savez comment David a été oint dès son enfance pour être le futur roi d'Israël. Mais il y en avait déjà un qui était en place, c'était le roi Saül. Et s'il est vrai que David a sauvé l'honneur de Saül dans le fameux combat de David contre Goliath, vous savez quel est le résultat de cette victoire? Saül a été animé d'un esprit de jalousie. Il cherchait continuellement à se débarrasser de David. Il a multiplié les moyens pour le faire périr à la guerre. ou d'une manière ou d'une autre, mais Dieu veillait sur David, tout comme Dieu veille sur chacun de nous. Et l'Écriture nous dit que continuellement il le poursuivait comme s'il était un ennemi public. Et chaque fois, je dirais, David échappait à la mort d'un pas. Quand je dis d'un pas, je n'exagère pas, parce qu'un jour, David se réfugie dans une caverne, et dans la même caverne, Saül arrive. Sans le voir, il était entre les mains de David, mais David ne l'a pas touché, puisque c'était Dieu qui l'avait appelé. Vous voyez, il était à un pas de la mort. Il aurait suffi que Saül l'aperçoive, il crie, ses gardes, ses soldats seraient venus, David, il n'y en avait plus. Mais Dieu était avec lui. Et alors, David l'a épargné au moins à deux reprises. Quand Saül a été épargné à deux reprises par David, il l'a remercié, tu es mon fils, je t'aime, tu es digne de la royauté. Enfin, il a pleuré, et puis, à peine David avait tourné les talons, qu'à nouveau Saül, dans un esprit de jalousie, l'a poursuivi pour le supprimer. Et cette fois-ci, David s'en va, il fuit. Et il dit, quand il arrive chez un sacrificateur, il lui dit « Est-ce que tu as une lance ou une épée ? Parce que je n'ai pas pris mes armes, l'ordre du roi était pressant. » Alors, j'aimerais détacher cette phrase du contexte que je viens de vous expliquer. L'ordre du roi était pressant. Pensez, c'était pressant pour lui de fuir, oui, de partir, parce qu'il tenait à sa vie. Et j'aimerais voir avec vous ce mot. L'ordre du roi était pressant. Nous connaissons le roi des rois. Il est bien plus que tous les présidents qui sont représentés dans notre monde, que tous les rois, les ambassadeurs, tout ce que nous voulons, même les empereurs. C'est le roi des rois. Et lui aussi a des ordres très pressants. Je ne sais pas comment vous êtes, mais quand c'est pressant, c'est ennuyeux d'être trouvé derrière quelqu'un qui prend tout son temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je me souviens, quand j'avais eu un certain problème, que nous habitions à Saint-Gaudin, il fallait m'amener de toute urgence à Toulouse, parce que j'avais fait une allergie à une anesthésie, et ça je ne savais pas que j'étais allergique, et on m'amenait de toute urgence, je venais de faire 6 syncopes, 3 jours de coma, et quand le médecin a ordonné qu'on m'amène en ambulance, le médecin a dit à l'ambulancier, c'est pas la peine d'aller vite, il n'y arrivera pas. Mais lui, non, c'est pas moi qui l'ai entendu, c'est ma femme, qui était dans l'ambulance avec moi d'ailleurs. Moi, j'étais inconscient de tout cela. Et elle dit, c'est pas à peine d'aller vite. Mais lui me connaissait déjà, puisque j'avais eu l'occasion de faire un déménagement avec lui, il me connaissait. Et comme il l'a dit, j'ai mis la gomme. Et on est arrivé, c'était à la clinique Pasteur, ils m'ont déchargé. Et à peine ils m'avaient déchargé, j'ai fait un arrêt cardiaque. Puis j'en ai eu 3 de suite. Si ça avait été dans l'ambulance, c'était fichu. Mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Alors il lui avait dit, c'est pas la peine d'aller vite. Mais lui, il a mis la gomme, s'appressait. Je ne sais pas à quelle allure il roulait, moi j'en sais rien, ce n'était pas mon problème ça. Mais je veux simplement dire par là, des fois, il faut se presser. Et j'aimerais voir 3 domaines dans lesquels il faudrait se presser. Alors, je ne parle pas de prendre votre voiture, de vous dépêcher, hein. Surtout avec les radars et les panneaux que l'on va bientôt enlever. Vous voyez ce que ça peut donner, hein. Mais je voudrais simplement dire le premier. Qu'est-ce qui est pressant? Eh bien, dans Actes chapitre 17, verset 30, vous n'êtes pas obligé de le chercher, je peux vous le lire simplement. Voilà ce que dit l'Écriture, et qui est toujours notre référence. Hein. Chapitre 17, verset 30, il est dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » La Bible nous dit, Dieu, dans les derniers temps, sans tenir compte des temps d'ignorance, ordonne à tous les hommes qui se repentent et qui se convertissent. Et ça, c'est pressant. Nous voyons des événements qui s'accomplissent, où les gens se posent des questions. Quand nous voyons ce qui se passe dans les pays du Maghreb, toutes ces révolutions qui ont entraîné des changements, des bouleversements, les gens se posent des questions. J'ai rencontré un nombre de chrétiens qui m'ont dit « Qu'est-ce que vous pensez ?» Vous savez, comme disent certains, il faut se préparer. Ça, c'est une expression que j'aime pas. On est prêt ou on n'est pas prêt? Moi, je suis prêt. Et vous? Amen. Donc, il faut plus se préparer. Je suis prêt. C'est important de le réaliser. Être prêt. Mais quand je regarde tout cela, je me dis, c'est annonciateur d'un signe de l'avènement du Seigneur Jésus. Et quand la Bible parle dans des livres prophétiques de l'Ancien Testament, dans l'Apocalypse et dans certains autres livres, de l'Empire romain qui était là à l'avènement de Jésus et qui se reproduira avant le retour de Jésus, tout se met en place parce que tout l'Empire romain contenait le pourtour européen. Et à l'heure actuelle, on veut faire ce qu'on appelle, je ne fais pas de politique, hein, on veut faire ce qu'on appelle l'Europe autour de la Méditerranée. Et on prépare l'Empire romain ancien avec l'avènement de l'Antichrist. Ce qui veut dire que quand je regarde tout cela, il y a parfois des frayeurs qui peuvent envahir nos cœurs, de la crainte, des angoisses. La Bible en parle, il y aura de l'angoisse dans les nations. Mais moi, ça ne me donne pas de l'angoisse. Moi, ça me donne de l'espérance. Parce que Jésus va revenir et il enlèvera tous ceux qui le connaissent, qui lui appartiennent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est temps. C'est pressant que tu fasses la paix avec Dieu si tu ne l'as pas faite. Il est urgent, il est pressant que tu te donnes à Jésus. Tu lui donnes ton cœur, ta vie, ton existence, tout ton être, ta famille, tout. Donne-lui tout pour que tu sois sauvé, parce qu'il revient. Et je dirais, ne tarde pas. Vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul, enfin, avant d'être l'apôtre Paul, c'était Saul de Tarse, comment il a une révélation de Jésus. Lui, ce n'était pas dans une boîte de nuit, c'était sur un chemin, mais un chemin, attention, un chemin de colère, un chemin de haine. Il allait dans un lieu pour arrêter les chrétiens, les faire prisonniers, voire les mettre à mort. Et là, il a une révélation de Jésus. Et il décide en disant, bien, que veux-tu que je fasse? Lève-toi, va à tel endroit, on te dira ce qu'il faut faire. Et Dieu envoie un messager au travers d'Ananias, c'était le nom de ce disciple, et quand il va prier pour Saul de Tarse, il dit, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Autrement dit, il ne faut pas que nous tardions. Nous ne devons pas tarder. Il revient bientôt. Tout se précise, tout se met en place. Vous savez, c'est comme les derniers puzzles qui se mettent en place d'un tableau qui va montrer quel sera l'état de l'humanité, mais le Seigneur va revenir chercher son Église. Et ça, nous en avons le sentiment, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit qu'il revient bientôt. Alors, que tardes-tu? C'est pressant. Donne ta vie à Jésus. Ne dis pas, oui, mais je voudrais d'abord réussir, je voudrais faire ceci ou cela. Non, c'est maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je connais deux témoignages de jeunes. L'une, c'était une jeune fille, c'était à Montauban. J'étais même pas pasteur. Je pense même pas être marié à ce moment-là. Mais on avait commencé à prêcher, à apporter quelquefois le message de la parole de Dieu, comme tout jeune gens qui ont un appel et veulent servir Dieu. J'étais avec mon beau-frère, c'est-à-dire le frère de ma femme. Et il y avait une jeune fille qui était là, c'était deux sœurs. Et le Seigneur avait touché son cœur. Elle avait dit qu'elle voulait se convertir, mais après qu'elle ait assisté à un grand bal, je me souviens plus où c'était, elle est allée au bal. Elle a attrapé mal et elle en est morte. Elle n'a pas eu le temps. Je ne dis pas qu'elle est perdue. Mais en tout cas, elle n'a pas eu le temps de au moins de se faire baptiser pour Jésus. La deuxième témoignage que j'ai reçu quand nous étions dans le Nord, d'une jeune fille qui venait à l'église, qui écoutait l'évangile. Elle fréquentait un inconverti. Elle aimait venir, mais il y avait ce gars qui prenait pas mal de place dans son cœur. Et elle sort d'une réunion, il vient la chercher en moto, et puis il la fait monter en moto, et comme pour se moquer, il fait un démarrage foudroyant, et il dit « En route vers l'enfer !» Il n'a pas fait un kilomètre, ils se sont rentrés, un platane, tous les deux sont morts. Maintenant, que tardes-tu? C'est pressant, donne ta vie à Jésus. Qui aurait pu croire qu'au Japon, il arrive ce qui est arrivé? Je ne parle que du Japon. Mais ça, c'est à la merci de tout le monde. Dans le même temps, il y avait des tornades qui détruisaient aux États-Unis. En même temps. Le temps ne nous appartient pas. Nous savons que dans les derniers temps, il y aura des phénomènes terribles qui se passeront. Le Seigneur nous dit, il attend de nous que nous donnions au Seigneur, c'est pressant. C'est pressant. Je ne peux pas mieux vous dire. C'est ce que je dis quand je témoigne. Il est urgent que vous tourniez, que vous vous donniez au Seigneur. C'est pressant. C'est la première chose à faire. Et maintenant, disait Ananias à Saul de Tarse, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Est-ce que tu as obéi aux ordres du Seigneur? Est-ce que tu as répondu à son appel? Est-ce que tu lui appartiens? Est-ce qu'il vit en toi? Est-ce que tu marches avec lui? C'est le premier ordre. Et que Dieu soit béni pour tous ceux qui ont répondu. Si tu ne l'as pas fait, plaise à Dieu. Que maintenant même, tu répondes à son appel. La deuxième chose que je trouve dans l'ordre, on ne va pas le lire, mais c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, il dit à ses disciples, ses apôtres qui sont réunis là, c'est donc le jour de l'ascension. Dans quelques instants, Jésus va être élevé dans le ciel et ils vont le voir partir dans le ciel et être dérobé à leurs yeux par une nuée. Et Jésus leur dit la deuxième chose, allez, etc. Mais avant, recevez ce que je vous ai annoncé, ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. La deuxième chose qui presse, c'est que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je précise, ce n'est pas un gadget. le Saint-Esprit. Ce n'est pas un enjoliveur, quelque chose qui fait joli, que l'on peut acheter à un véhicule ou n'importe. Non, c'est une nécessité. Dans les temps actuels, il y a une multitude de fausses doctrines qui circulent. Il y a une multitude de séductions. Il y a une multitude de séductions spirituelles, morales, charnelles, physiques. Il y a des tentations. Et il faut pas moins qu'être rempli du Saint-Esprit pour le discerner et y résister. J'entends beaucoup, je lis beaucoup de livres qui concernent la famille. Et c'est bien. Je dis bien, c'est bien. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. C'est bien. Mais il y a une chose sur laquelle je n'ai jamais vu quelque chose écrit. C'est les attaques du diable. Et les attaques du diable, même envers les couples chrétiens. Moi, je peux vous dire que de 4 sources sûres, il y en a un, c'était le frère d'un chrétien de notre assemblée. C'est un spirit. Et il a dit, vous allez déguster, vous. Parce que nous jeûnons et nous faisons des incantations pour que tombe et soit divisé les foyers pastoraux et les foyers chrétiens. 4 personnes, dont une personne qui me rendait témoignage, quelqu'un qu'elle avait vu, qui était dans ce domaine-là, qui n'est autre que Madame Gadroy, la maman de Jérémie. Elle dit, mais ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Si nous marchons avec Dieu, oui. Mais si nous marchons en clochant, nous pouvons être tentés, séduits, et les personnes succomberont. Et beaucoup de gens qui ont été séduits dans nos assemblées l'ont été par des gens qui trafiquaient dans les ténèbres. Et ça, je peux vous le dire, j'ai même un témoignage écrit, ma femme peut le confirmer. Parce que l'homme, il venait aux réunions, ah oui, il venait, mais son cœur n'était pas à Dieu. Et il est tombé dans ce piège-là. Heureusement, dans sa compassion, Dieu les a relevés tous les deux. Que Dieu soit béni. Mais nous devons être remplis du Saint-Esprit pour avoir un don du discernement des esprits. Souvent, il y a quelqu'un encore qui me le demandait il n'y a pas longtemps, par téléphone, et me disait, mais je me rends compte de plus en plus qu'il faut demander le discernement des esprits. Mais j'ai dit, oui, c'est écrit. Nous devons demander le don du discernement des esprits. Je vais vous dire une chose qui peut-être va vous étonner, mais en tout cas, peut-être vous y étiez. Il y a des années de cela, il y avait des rencontres à Auch. Vous vous souvenez des rencontres d'église à Auch? Il y avait Toulouse, il y avait Montauban, il y avait plusieurs églises comme cela. Et c'était dans une grande halle près de la caserne, je me souviens. Et puis on mangeait, là, c'était un grand jardin, c'était magnifique, on s'y retrouvait. C'était beau, c'était bon, c'était bien. Et un matin, il y avait eu un bon message. Et l'après-midi, on donnait témoignage à un homme, un frère qui venait d'Afrique. Moi, je ne le connaissais pas. Et il était sur l'estrade, il rendait témoignage, pour ne pas dire qu'il prêchait, parce qu'il a rendu témoignage pendant 3 quarts d'heure. Alors, c'est pour ça que je dis cela. Et plus je l'écoutais, plus j'étais mal à l'aise, au point où je suis sorti. Je suis sorti. Je ne pouvais plus le supporter. Et il tirait des amens de tout le monde. Hein. Oh, amen. Alors tout le monde, quand on dit amen, tout le monde répond amen, béatement. Je sors à l'extérieur du bâtiment, je trouve quelqu'un que les anciens connaissent, M. Bessaguet. Vous vous souvenez de M. Bessaguet? Il me voit sortir, il me fait « Qu'est-ce que tu fais ?» Je ne peux pas le supporter. Il m'a dit « Moi non plus. » Ça m'a rassuré. J'ai dit « Au moins, je ne suis pas le seul. » Et puis on a attendu qu'il finisse, et puis quand c'était le message du pasteur, alors on est rentré à nouveau. 15 jours après, cet homme était arrêté par la police, c'était un imposteur et un voleur. Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir, je n'en sais rien si c'est lui qui avait pris l'initiative. Mais le don du discernement des esprits, Il n'y a pas si longtemps que cela, il y a quelques mois, nous étions avec mon épouse et un couple dans une église. On a quelqu'un qui a parlé. Je ne vous dis pas l'impression que nous avons eue. Et de plus, il n'y avait pas que moi dans l'église, mais faisait que me fixer moi. J'étais dans l'auditoire, c'est la première fois que je mettais les pieds dans cette église. Il me fixait moi et je vous assure qu'il n'était pas bien à l'aise. Et j'ai pas revu le pasteur de l'endroit, quoique j'ai toujours son adresse, son numéro de téléphone. J'ai envie de l'appeler et de lui dire qu'il fasse très attention. Le don du discernement des esprits, car la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des doctrines. Vous avez dit le mot, de démons. Ça veut dire qu'au départ, peut-être ça sera quelque chose de joli, de beau, etc. Mais en fin de compte, c'est démoniaque. Ce qui veut dire que ceux qui seront pris dans ces filets, ils sont perdus. D'où nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit vient de Dieu. Il nous avertit. Le Saint-Esprit est en nous. Il met des convictions, des approbations ou des désapprobations. Il nous avertit. Le discernement des esprits, c'est savoir qui est derrière. Ce qui est annoncé, prêché, préparé, etc. Ça peut être bien. On peut avoir une approbation de Dieu. Ah, c'est formidable. Ou une désapprobation. J'ose pas aller trop loin dans ce que je dis. Mais, même pour nous prédicateurs, quand parfois nous devions faire certaines alliances que Dieu n'a pas permis, et moi je m'en réjouis, que Dieu n'a pas permis, il a permis autre chose qui est bien meilleure et que je bénis. Mais je savais que derrière tout cela, c'était mauvais. C'était plonger, aller dans le bas, vers le bas, et c'était contradictoire à Dieu. Quand je sais ce qui se passe derrière certains phénomènes religieux, je ne pouvais pas adhérer à m'unir. Mais Dieu ne l'a pas permis, et je bénis Dieu. Ça, c'est vraiment Dieu qui a arrêté à temps. Que Dieu nous aide à le reconnaître, à le voir. Attention, je ne dis pas, je l'ai dit ce matin, qu'il n'y a que les assemblées de Dieu qui sont sauvées. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Heureusement que Dieu sait et connaît ses brebis dans tous les endroits où on parle de lui qui est venu en chair comme un être humain, qui est mort sur la croix pour nous libérer de tous nos péchés, nous réconcilier avec Dieu et qui vit avec nous et dont la parole est immuable. Il y a de tels courants évangéliques qui existent, que Dieu soit béni. Et tous ceux qui y vont sont sauvés, nés de nouveau. Mais je parle de tous ceux qui tentent d'évincer Jésus-Christ. Et il y en a. Que Dieu nous donne le discernement des esprits. Et ça, c'est possible que si je suis baptisé du Saint-Esprit. Vous avez des gens qui sont tourmentés par de mauvais esprits et qui peuvent venir dans des réunions. Et s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, ils resteront toujours là avec leurs problèmes. Et ils peuvent même amener des choses mauvaises dans l'Église. Regardez quel a été le jugement d'Ananias et de Saphira. Alors que Pierre avait renié, ou n'importe, mais lui, il n'a pas été foudroyé, Pierre. Mais le principe d'Ananias et de Saphira était quelque chose de dangereux pour l'Église. Et Dieu ne l'a pas voulu. Le Saint-Esprit peut nous aider. Nous avons besoin d'être baptisés et remplis du Saint-Esprit. Il leur dit, c'est bien, vous allez aller, je vais vous envoyer. Mais avant, attendez le baptême du Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous voulons que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Personnellement, quand j'ai affaire à quelqu'un qui a été en proie aux démons, et que dans sa grâce, Dieu a délivré. C'est une joie, ça. Hein? Oh là, moi, je n'ai pas de plus grande joie que de voir des gens passer de Satan, la puissance de Satan à Dieu. J'insiste, je les suis jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Après, ce n'est pas moi la relève. Seigneur, tu t'en occupes, hein? Avec les autres, avec l'Église, avec les prédicateurs. Mais tu t'en occupes. J'avais demandé à M. Gaud, avant-hier, si j'ai bonne mémoire, si ce matin je pouvais voir quelqu'un dans son église. Alors il m'a donné la permission, il le sait. C'est une personne qui appartient, qui va dans une autre église, que Dieu a délivrée dans sa grâce, dans le bureau du pasteur Gérard Gaud. Puis elle m'a téléphoné, elle voulait me voir. Et je suis venu en avant, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit, pasteur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. C'est pas moi qui en ai parlé. Moi, j'ai rien parlé de tout ça. Elle n'est pas dans un tel mouvement. Alors, on n'est pas là pour, j'allais dire, voler les gens d'un autre mouvement, puisqu'elle est sauvée, moi, c'est tout ce qui compte. Mais elle me dit cela. Ah, je dis, ça, c'est bien. Alors, je vous reverrai, parce que là, en 10 minutes, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais ça me fait plaisir. Je vous assure, je ne lui ai jamais parlé du baptême du Saint-Esprit. Elle le demande. Oh, mais ça me réjouit, moi. Alors, il y aura un nouveau rendez-vous, ce sera bien situé, pour que Dieu la baptise du Saint-Esprit. C'est formidable, cela. Soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'être baptisé, puis de dire, ça y est, maintenant j'ai ma médaille commémorative des assemblées de Dieu, Pentecôte, je suis baptisé du Saint-Esprit. Non, ça ne veut pas dire cela. J'ai besoin, c'est-à-dire comment il parle. Eh oui, parce que vous en avez beaucoup, ils ont voulu tellement le baptême du Saint-Esprit, une fois qu'ils l'ont eu, c'était fini. Si je leur pose des questions, je me souviens d'une personne, il n'y a qu'à Saint-Gaudens que ça se passait, ces trucs-là. Il y a Monique là-bas, elle me regarde, elle me dit celui-là. Elle avait été baptisée du Saint-Esprit, et je lui dis, ça fait combien d'années? Elle m'a dit le nombre d'années, je lui dis, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Elle m'a dit rien. Alors ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Moi, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ça a changé bien des choses dans ma vie. N'est-ce pas, Olivier? Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, le baptême du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, il y a 3 choses spirituelles qui ont marqué ma vie. Le salut, ah, Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit et les victoires sur les pensées. 3 choses qui ont bouleversé ma vie. Baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement une médaille, un diplôme, mais c'est le commencement d'une vie nouvelle avec l'Esprit de Dieu, d'une vie de plénitude, d'une vie de victoire, de triomphe. C'est ça la vie du Saint-Esprit. Et j'en ai besoin tous les jours d'être renouvelé, transformé, de louer Dieu en Esprit, d'être en communion par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu. Et il sonde mes forces, etc. Et il veut révéler le Seigneur à mon cœur. 2e chose présente, sois baptisé du Saint-Esprit. Je ne sais pas maintenant comment ça se fait dans les assemblées, mais autrefois, après les réunions de baptême d'eau, il y avait des réunions de baptême du Saint-Esprit, de recherche. Hein. Je ne sais pas si ça se passe, ce n'est pas obligé que ce soit la même journée, mais c'était des moments formidables où Dieu baptisait, extraordinaire. Et c'était vraiment Dieu qui baptisait du Saint-Esprit. Hein, parce que je me souviens d'un frère qui a connu notre frère Gérard Gaud, qu'ont connu peut-être certains anciens, c'est M. Kenneth Ware. Et il était à Pau, il avait fait un week-end, il y avait des baptêmes, et puis après le service de baptême, les gens restent, c'était du temps d'Edouard Kowalski, les gens restent pour un moment de prière, pour être baptisés du Saint-Esprit. Donc Kenneth Ware, qui, attention, est une tête, hein, c'est une encyclopédie biblique, c'était quelqu'un qui avait fait de belles expériences, il a détaillé, il a prouvé, il a montré ce qu'était le baptême du Saint-Esprit, il a expliqué, etc. Et puis il prie, il y avait 12 de baptisés d'eau, il prie, une seule a été baptisée du Saint-Esprit. Oh, le frère, ça l'avait presque un petit peu découragé. Alors il s'approche d'elle, il fait, mais qu'est-ce que vous avez compris dans l'étude que j'ai faite pour que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit? Oh, moi, espagnol, moi, je ne comprends pas bien français. Elle n'avait pas compris le message de Kenneth Ware, mais Dieu, lui, l'avait compris. Et je me souviens quand il m'a partagé cela, et c'est vrai que Dieu veut baptiser du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. À Dieu soit la gloire. Ça, c'est la 2e chose. Ah, l'Esprit de Dieu, en nous, il met en nous les sentiments. La compassion de Jésus, il augmente notre foi, il nous met du zèle. Ah, quand on est baptisé du Saint-Esprit, hein. On n'avait pas besoin de me dire, il faut aller évangéliser. Je me souviens, j'avais qu'un vélo, J'avais des sacoches, je prenais des prospectus et allez, j'allais dans les villages et je mettais les prospectus. Le zèle que donne le Saint-Esprit. Alléluia. La troisième chose qu'il donne, allez et annoncez la parole, témoignez. Et ça, c'est pressant. Si nous, nous ne parlons pas de Jésus aux gens, qui va le faire? Les hommes, c'est bien ça. Personne. C'est pas les hommes politiques qui vont le faire. C'est pas notre gouvernement, même si nous vivons dans un pays relativement libre. J'ai bien dit relativement. En tout cas, on n'a pas à se plaindre de bien des choses dans notre pays. Quand nous voyons ce que nous avons, tout ce que nous sommes, et que je vois les pays étrangers, et j'y vais souvent, ben je vous garantis, merci Seigneur, pour le pays où nous habitons. Mais ce n'est pas notre pays laïque qui va s'occuper des âmes. Seuls les chrétiens peuvent le faire. Seuls les chrétiens peuvent témoigner. Oui, mais nous avons de moins en moins de possibilités de le faire. Ne craignez pas. Même si on vous contredit, si on s'oppose, même si peut-être vous recevez des menaces, voire même des blâmes, il vaut mieux pour vous être blâmé par le monde, mais être reconnu par Jésus. Et permettez-moi aussi de dire que ceux qui vous blâmeront seront peut-être les premiers, si vous parlez de Jésus, à venir au jour où ils seront dans la difficulté, vous demandez de prier pour eux. Et ça, c'est par expérience que j'en parle. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que le Seigneur remplit notre cœur et nous devons témoigner. Ne faites pas comme dans une église que je connais, où on nous téléphonait, et je le dis avec beaucoup de tristesse, il y a plusieurs églises qui font du social et que Dieu soit béni. J'ai bien dit que Dieu soit béni. Hein? Mais pourvu que le social soit accompagnateur du spirituel. Nous sommes d'accord. Le social ne doit pas remplacer le spirituel. Parce que si le social remplace le spirituel, dans le monde, il y a beaucoup d'organismes qui le font. Nous sommes d'accord. Mais nous, si nous accompagnons de social, c'est notre but spirituel, d'amener les âmes à Jésus. Nous sommes d'accord, c'est le but de l'Église. Et dans cette Église, ils font du social. Mais comme ils ont voulu un subside du département, la préfecture, ils l'ont eu, ils n'ont plus le droit, pendant qu'ils font leur social, que ce soit pour les personnes âgées ou aux distributions de nourriture, ils n'ont plus le droit de parler de Dieu et de Jésus. Et ils font ça dans l'Église. Alors imaginez-vous, je vais vous imaginer la chose. Admettons, vous faites une banque alimentaire dans l'église, ici à Saint-Agne. Amen, ça c'est bien. Et puis, les gens viennent, vous ne devez pas leur témoigner. C'est votre église. Je fais une parenthèse. Vous croyez que s'ils font du social dans une mosquée, vous les empêcherez de parler de Allah ? Ça, je vous le défie. Et nous, soi-disant, pour obéir aux autorités, mais enfin, où on va ? Alors que je sais que dans des pays, ils meurent à cause de leur foi, et nous, on se tairait pour avoir quelques bribes d'argent pour être soutenus. S'il vous plaît, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Moi, je veux faire du social, et nous en faisons. Et vous nous avez aidés souvent. Vous savez dans quel domaine, je le dis. Vous nous avez aidés, et j'en bénis le Seigneur. Mais vous nous avez aidés pourquoi ? Pour qu'on parle du Seigneur. Nous n'avons jamais fait une réunion auprès des gens qui étaient bas tombés, avec une collation que vous aviez préparée. On ne leur a jamais rien donné sans que l'Évangile soit apporté. Soit par notre frère, soit par notre frère. Mais c'est notre but ! Parce que si nous les aidons matériellement, et Dieu soit béni, il faut le faire, nous voulons surtout qu'ils aient la vie éternelle. La vie éternelle. Et pour nous, il est urgent d'aller et de dire que Jésus revient bientôt, qu'il faut que les gens se réconcilient. C'est pressant. Nous vivons les derniers temps. Je ne sais pas le temps qu'il reste. C'était ce matin, juste avant de venir, j'ai regardé quelque chose sur Internet. Je suis pas un fortiche, moi, hein, mais je regarde mes mails, et puis je regarde un site qui est évangélique. Et alors, il y a un homme qui a écrit « Quand le Seigneur allait revenir, et puis 6 mois après la fin du monde ». Il a donné les dates. Ah oui, il a donné les dates, hein. Je sais pas, j'ai cherché dans la Bible, je n'avais pas trouvé. Non, il n'y en a pas. Je me dis, c'est pas possible. J'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de signes, mais je sais qu'il revient bientôt. Je serais surpris si le Seigneur revenait avant les dates que lui, il a données. Hein. Et il revient. Et pour moi, mon désir en tout cas, c'est de dire aux autres qu'ils ont à se préparer. Vous savez, c'est pas toujours facile, je m'excuse de ce que je vais dire, et surtout qu'il y a ma femme présente. C'est pas toujours facile de partir et d'aller évangéliser. Surtout quand on a la retraite, comme ma femme m'a souvent dit, elle me l'a dit encore hier ou avant-hier, elle m'a dit « je pensais une autre retraite ». Et Dieu sait que j'aime Colette. Dieu sait que j'aime mes filles. Dieu le sait. Mais je ne peux pas me faire à l'idée que des gens n'aient pas eu l'occasion d'entendre parler du Seigneur. Alors c'est difficile. Même si parfois ça coûte, ça lui coûte, eh bien je vais quand même. Je ne pense pas que Dieu m'en tiendra rigueur. Et je crois que dans ce domaine-là, bien Dieu nous tient dans sa main. Mais il faut que nous disions aux autres que Jésus revient. Il faut qu'il se repente. Il faut qu'il soit sauvé. Et en nous occupant du salut des autres, Dieu va s'occuper du salut de nos familles. Il va s'en occuper. Que Dieu soit béni. Parce qu'il les aime. Oh, Dieu nous aime. Alléluia. Allez le long des... Contraignez-les, disait Jésus. Forcez-les. Et ce qui me réjouit, c'est qu'en même temps, s'il est vrai que je pars souvent, en même temps, avec Colette, nous voyons en ce moment des gens, des personnes, dans les commerces où nous allons, et nous pouvons leur rendre témoignage. Certaines viennent à la maison, d'autres vont venir ou veulent qu'on aille les voir, auxquelles nous pouvons témoigner et nous leur offrons des Bibles. Ça me réjouit. C'est ma grande joie, moi. Quand je vois cette jeune femme qui a été opérée 6 fois, grave maladie, qui est partie, elle y était d'ailleurs 7 semaines à Marseille, très grave maladie, et elle ne peut pas s'en sortir, si ce n'est pas Dieu, elle ne peut pas s'en sortir. Mais Dieu l'a mis à notre cœur, on ne sait pas pourquoi. Elle est vendeuse dans un centre commercial, je ne dirai pas laquelle, je ne veux pas de la pub. Hein. Elle est vendeuse, etc. Mais et toujours, elle nous parle, elle est gentille. Alors nous avons eu à cœur de lui offrir une Bible pour Noël, une Bible et puis une boîte de bonbons au chocolat. Elle m'a remercié, elle m'a dit, « Monsieur, jamais dans toute ma vie on m'a fait ça. » Elle était contente. Elle nous embrassait. Et quand elle voit ma femme, elle vient l'embrasser. Elle m'embrasse également. Elle m'a dit, mais je viendrai vous voir. Moi, ça me réjouit. Seigneur, je la veux pour toi. Je veux qu'elle soit gagnée à Jésus. Je veux que le Seigneur la touche, elle, son mari. On a une toute petite jeune fille qui vient à la maison, qui est une copine d'une de nos petites filles. Elle vient, elle aime venir. D'ailleurs, on pensait même l'amener aujourd'hui, passer la journée avec nous. On n'a pas trop osé. Son mari est à Toulouse, c'est un sportif dans une équipe de Toulouse. Et elle est libre. Alors elle vient à la maison, elle est contente, elle a mangé plusieurs fois. Elle a demandé la Bible tout de suite, on lui a procuré la Bible, le livre. On est heureux. On prie avec elle. Elle est là, elle dit rien. On est heureux. Ensemble, c'est notre joie. Sauver des âmes, les amener à Jésus. Je n'ai pas la prétention de sauver tout Toulouse. Ah, si je pouvais. Toi aussi, hein. On en prendrait chacun la moitié et aller avec tous les passeurs. Mais on ne peut pas, on n'a pas cette prétention. Mais on veut simplement obéir à Dieu, sauver les âmes les unes après les autres. Et mais dites-moi, le frère veut sauver une âme cette semaine. Amen. Moi je veux sauver une âme cette semaine. Amen. Le frère veut sauver une âme cette semaine. Amen. Tu veux sauver une âme cette semaine? Marilyn aussi, le frère aussi. Mais si chacun, nous demandons à Dieu une âme cette semaine, vous imaginez ce que ça va faire? C'est extraordinaire. Et une âme, c'est pas beaucoup. Une âme, c'est dans nos possibilités. J'irais, il me faudrait une, vraiment une grande foi pour que Dieu sauve 1 million de personnes dans la région toulousaine. Seigneur, j'ai la foi que pour une personne, mais donne-moi là. Seulement, si chacun fait pareil, vous imaginez le résultat? C'est ce que le Seigneur a montré. De toute façon, il n'a pas fait l'école à 1 millier d'apôtres et de disciples, il en a pris 12. Puis eux, ils ont multiplié et ils ont rempli le monde de la nouvelle doctrine, que Dieu soit béni. Le Seigneur nous demande d'aller et d'évangéliser. Alors voilà les 3 ordres pressants, vous avez compris? Si aujourd'hui tu ne connais pas le Seigneur, ne sors pas de ce lieu sans avoir donné ta vie à Jésus. Je t'en supplie. La deuxième chose, sois rempli du Saint-Esprit pour vivre sur les hauteurs avec Jésus. Nous chantons parfois et nous le lisons dans la parole, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La troisième chose, allez évangéliser. Allez évangéliser. Je viens de terminer un livre, à 3-4 pages près, je l'ai terminé, sur quelqu'un que Dieu a sauvé. Il faut voir de quelle manière il l'a sauvé. Et il est en Inde et il a une vision. Il veut créer, d'ici quelques années, 100 000 églises en Inde. Il en a déjà, je ne sais pas si c'est 2 000 ou 3 000, il va en créer 100 000. Mais c'est simple pour lui. Il dit, vous les Occidentaux, c'est difficile de venir au milieu des marginaux, des bas tombés, des castes intouchables, etc. Puis votre message n'est pas tellement bien reçu. Et il a raison. Mais il dit, c'est à nous de nous lever dans notre pays et de donner notre vie pour ceux de notre pays. Et il y a des équipes. Il y en a qui sont morts. Mais l'œuvre de Dieu, ceux qui ont été parfois des criminels se convertissent, deviennent des prédicateurs. Il a une vision. Ça coûte, parce que dans les pays musulmans, devenir chrétien, vous savez ce que ça peut donner? Eh bien, ils le font. Ils se donnent au Seigneur. Ils vont de l'avant. Or, nous, on ne risque pas la mort. On risque les moqueries, mais ça ne fait rien. Allons de l'avant. Et j'ai souvent remarqué que ceux qui étaient les plus opposés deviennent souvent de bons et fidèles chrétiens. En tout cas, moi, un jour, Dieu m'a bien eu. Parce que j'allais faire une visite dans une petite ville, voir une chrétienne, juste avant la réunion. Et elle avait une amie inconvertie, une voisine, une amie, qu'elle connaissait bien. Et quand je suis entré, je ne connaissais pas cette personne, je l'ai saluée, elle m'a regardé, s'est mise à rire. Elle s'est moquée littéralement de moi. Je n'avais rien dit, elle s'est moquée de moi. Bon, je n'ai pas trop insisté, j'ai laissé la sœur avec la dame, j'ai dit, écoutez, je crois qu'il vaut mieux que je parte, et puis je suis parti. Le surlendemain, elle me téléphonait. Monsieur Galifot, oui. Est-ce que vous pouvez venir chez moi ce soir avant la réunion? Pourquoi? Vous savez, la dame qui se moquait de vous, qui était chez moi, oui, elle veut vous voir. Elle est dans des problèmes. Elle a essayé déjà de se supprimer. Somme, je suis venu. Dieu l'a sauvée, elle et son mari. Pourtant, c'était opposé. Mais moi, je me réjouis parce que le Seigneur sait toucher les cœurs. Troisième ordre qui est pressant, va. Témoigne de Jésus, de son amour, de sa puissance. Témoigne qu'il est vivant, qu'il est avec toi. Témoigne de tout ce qu'il fait dans ta vie. Alors, pour les chrétiens maintenant, comment réagissons-nous devant un ordre? Je me souviens de quelqu'un avec qui je parlais. J'ai dit, tu aurais aimé faire l'armée, toi? Il m'a dit, oui, si c'est moi qui commandais. On est tous pareils, hein. On veut bien donner des ordres, on ne veut pas trop en recevoir. Comment réagissons-nous face à un ordre? Eh bien, je prends l'exemple d'un homme dans la Bible, on n'obéit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense à Jonas le prophète. Dieu lui dit, va à Ninive. Lui, il prend le bateau pour aller... Ninive, c'était à l'est, et lui, il va à l'ouest. C'est le cas de le dire, il était carrément à l'ouest, lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Et il s'en va, la direction diamétralement opposée. Et parfois, nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu qui n'obéissent pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, que Dieu attende quelque chose de vous, et vous ne l'avez pas fait. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Je m'en humilie, surtout que parfois, ça m'a coûté des larmes. C'est pour ça que maintenant, je vais obéir aux ordres du Seigneur Jésus. Quand Dieu vous demande de visiter quelqu'un, que que vous ne le faites pas et que 3 jours après vous apprenez qu'il est mort, ça vous reste. Et ça, je ne veux plus le faire. Des fois, ma femme n'a pas toujours compris. Je suis allé faire des visites à des centaines et des centaines de kilomètres. Mais pourquoi tu y vas? Il y a des pasteurs qui sont sur place. Il faut que j'y aille. Parce que Dieu me l'a demandé, c'est tout. Va. Obéis quand Dieu parle. Comment réagissons-nous? Eh bien, je ne sais pas comment vous êtes, peut-être qu'avec l'âge, ça se fait encore de plus en plus, on oublie. Vous vous souvenez de ce vigneron qui demande à ses fils d'aller travailler? Il demande au premier, va travailler dans ma vigne. Non. Alors, il va vers le deuxième, il dit, va travailler à ma vigne. Oui. Tout compte fait. Le deuxième a oublié. C'est le premier qui y est allé. Et nous, parfois, nous disons oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a qui disent toujours oui. C'est comme les enfants. Tu vas me faire ceci? Oui. Il n'y a que oui, mais il n'a pas fait. Hein. Et c'est prêt avec les enfants de Dieu. Ah, parfois Dieu attend quelque chose de nous, et nous ne le faisons pas. Il attend que nous rendions témoignage. Il attend que nous parlions. Il attend peut-être que nous ayons un moment de prière avec quelqu'un qui est dans le besoin. Que nous fassions une visite. On lui a dit oui. Et puis on a oublié. C'est drôle parce qu'on oublie plus souvent ce qui est à Dieu que ce qui est de nos propres intérêts personnels. Hein. C'est notre nature. Mais ça se trouve devant un ordre. Or, ce n'est pas le moment d'oublier. C'est le moment de foncer. Comment on réagit devant un ordre? Bon, on reste incrédule. On n'y croit pas. Pourtant, Dieu nous dit que tout est possible à celui qui croit. Je pense, témoignage de cette jeune fille, dans une boîte de nuit. Même dans une boîte de nuit, on peut y trouver Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller à la boîte de nuit maintenant. Mais je veux dire, Dieu y est. Vous vous souvenez de David, il disait, si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends ces jours des morts, tu y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore, là encore, je ne pourrais pas me débarrasser de toi. Tu seras toujours là. Hein? Mais on reste incrédule en ce moment. Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu veut le faire? Est-ce que Dieu va le faire? Je pense à Pierre qui est en prison, gardé par 16 soldats. 4 écouades de 4 soldats, chacune. 16 soldats. Il est là, il sait ce qui va lui arriver. Déjà, auparavant, on a tué Jacques, on l'a mis à mort. Jacques Zébédée. Et maintenant, c'est son tour. Le roi Hérode a vu que ça plaisait au peuple que l'on se débarrasse des apôtres de Jésus. Alors, il emprisonne Pierre avec la ferme intention de le mettre à mort. Pierre est tranquille, il dort. Je ne sais pas comment vous êtes. Imaginez-vous que je vous dise, demain, Olivier, tu vas mourir. Tu vas rester à dormir tranquille? Voilà. Il est en paix. Eh bien, Pierre était en paix. Et puis alors, il y a un ange qui vient, qui le réveille. Il fait tomber les chaînes. Il ouvre les portes et il le laisse dehors. Pierre est à peine réveillé. Il se demande s'il ne fait pas un rêve. J'ai rêvé que j'étais libre. Et puis, directement, il s'en va vers une maison où il sait qu'il y a des gens qui prient. Alors, il arrive. Il y a une petite servante. Alors, vous savez pourquoi ils prient, ces gens qui sont dans la maison? Ils prient pour que Pierre soit délivré. Pierre est devant la porte. Il frappe. Petite servante qui s'appelle Rhode, elle va ouvrir. Mais avant d'ouvrir, parce que c'était la persécution, qui est-ce? C'est moi, Pierre. Elle n'ouvre pas. Elle va voir les autres. Il y a Pierre. Alors, ils en déduisent, c'est son ombre ou son fantôme. Ils ont peur. Son esprit, son ange. Ils ne comprennent pas. Ils sont en train de prier pour que Pierre soit délivré. Pierre est devant la porte et eux, ils ne croient pas. Parfois, c'est comme ça que nous réalisons. Et nous réagissons devant les ordres du Seigneur Jésus. Nous faisons quelque chose sans croire qu'il est à la hauteur pour accomplir le miracle. Comment réagissons-nous? Important de le savoir. Comment réagissons-nous? Eh bien, parfois nous sommes trop pressés ou trop préoccupés et nous ne prenons pas ce qu'il faut. Je pense, quand mes enfants étaient petites, Ça, c'était souvent à Saint-Gaudens, d'ailleurs. Hein. On n'était pas loin de l'école avec nos enfants, là où nous habitions. Et puis, le matin, je les amenais à l'école. J'arrivais presque à l'école. Oh, elles avaient oublié leur cartable. Elles avaient oublié quelque chose. Je ne sais pas, ça vous est jamais arrivé, ça. Tiens, ça t'arrive aussi, Marie-Line. Alors, il fallait revenir. Ils avaient oublié. Et nous, nous risquons d'oublier de prendre ce qui est principal dans nos vies. Dieu m'a donné une leçon un jour et j'y veille maintenant. À l'époque, je dis à l'époque, nous travaillions donc dans Haute-Garonne, Saint-Gaudens, et nous voulions ouvrir Saint-Giron. Alors j'avais trouvé un petit commerce, je devais démolir deux cloisons pour en faire une salle de réunion. Et je n'avais pas de main-d'œuvre, c'était moi qui y allais. Alors le matin, j'étais vite allé pour démolir, etc. Je devais rentrer, me changer, pour aller faire une visite à Boulogne, qui est de l'autre côté de Saint-Gaudens, afin de visiter une chrétienne, et particulièrement, elle avait invité une amie qui était venue écouter l'évangile le dimanche. Elle prenait l'avion pour aller en Algérie, elle ne reviendrait plus. Elle avait été touchée, elle voulait parler. Alors, j'avais fait le travail le matin, c'était pour Dieu quand même, vous êtes d'accord? Non, pour préparer un local pour Dieu, c'est bien pour Dieu. Je reviens, j'avais même pas pris le temps de manger, ça m'arrivait fréquemment, je me change, et hop, je fonce à Boulogne. J'arrive là-bas, on avait rendez-vous, je me souviens, à 2h, 14h, je frappe, personne, j'attends 2-3 minutes, personne. Peut-être qu'ils sont allés faire un tour dans la ville, c'est pas bien grand. Je prends la voiture, je fais un tour, je regarde, personne. Je reviens, je laisse ma voiture tourner, c'était un vieux diesel, je laisse tourner la voiture, je frappe à nouveau, personne. Oh, j'étais déçu. Je reprends la voiture, je reprends la direction de la maison, puis à la sortie de Boulogne, je m'arrête sur un petit chemin là, je me gare, et puis j'arrête, et puis j'ouvre la Bible. Je prends la parole de Dieu, je la médite et je prie. Bon. Je remets le moteur en route et je reviens chez la chrétienne. Je n'ai pas eu besoin de frapper longtemps. Elle vient me voir. Ah, monsieur Galifot, on vous attendait, on pensait que vous n'allez plus venir. Alors j'ai dit, mais j'étais là à telle heure. J'ai fait un tour, je suis revenu. Elle dit, écoutez frère, on n'a pas bougé. Ah, bon. Nous avons parlé, nous avons prié avec cette femme qui a voulu marcher avec le Seigneur. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, Dieu seul le sait. Et puis, je suis rentré. Et dans la voiture, comme tout prédicateur qui se pose des questions, je me dis, pourquoi? Pourquoi ce contretemps? Et là, c'était impératif. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu n'avais pas pris le temps de prier, de chercher Dieu dans la voiture, qu'est-ce que tu aurais partagé avec cette femme? Je m'explique. Spirituellement, je ne m'étais pas attendu à Dieu pour ensuite dire ce que Dieu avait à dire. Et Dieu a permis ce contretemps pour que dans la voiture, ah la voiture pour moi est souvent une chambre haute, dans la voiture, en relation avec Dieu, arrêté sur ce chemin, je puisse lire la parole, je peux même vous lire le chapitre que j'ai lu, je m'en souviens, comment Dieu m'a parlé et après j'ai pu le lui rapporter. Il faut partir. Prêt. Armé. Or, quelle est l'arme? La parole de Dieu. Et quand il dit, David, je n'ai pas pris mon épée, eh bien voilà notre épée. Pour témoigner, pour parler, citer un verset, citer un texte de la parole, citer un miracle de Jésus, parler de ce que dit la Bible, c'est une arme. Et la parole de Dieu ne reviendra pas à Dieu sans avoir fait son effet dans les cœurs. Vous êtes d'accord? Donc, il est important de se préparer en lisant la parole. Et c'est par cette épée que le diable a été vaincu. Car le diable a essayé de tenter Jésus en disant « Il est écrit !» Mais Jésus a répondu « Il est aussi écrit !» Il n'y a rien de tel pour se préparer que de lire un passage de la parole de Dieu. Ça nous est arrivé aux uns et aux autres. Plus d'une fois, vous aviez rendez-vous avec un inconverti, une inconvertie, chez vous, chez elle, chez eux, peu importe. Et Dieu vous a mis un passage à cœur. Ah, et vous êtes parti, vous avez discuté, mais ce passage, vous l'avez lu, vous l'avez dit, vous l'avez commenté, et allez, ça pénétrait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que vous étiez préparé, armé. Et je vais vous dire encore une chose. C'est vrai que Satan a voulu se servir de cette épée pour tenter Jésus. C'est lui qui s'est fait avoir, excusez-moi le terme avoir. Satan a préparé la croix pour se séparer de Jésus. Mais la croix lui est retombée dessus. Parce que c'est à la croix qu'il a été vaincu. C'est à la croix que les dominations ont été réduites à zéro. Il a vaincu. Que Dieu soit béni. Voilà nos armes. Elles sont fortes. Et Dieu veut que nous nous servions de ces armes, car l'épée qu'on lui a proposée, c'était l'épée de Goliath. Goliath qui était l'ennemi de David, l'ennemi d'Israël. Eh bien, Dieu s'est servi de cette épée pour la victoire pour Israël. Et Dieu veut se servir de sa parole et de la croix pour que ceux qui sont victimes de Satan puissent être libérés et que Satan soit encore vaincu sur toute la ligne. Est-ce que nous prenons nos armes jour après jour? Nous avons besoin. Nous sentons quand nous ne sommes pas prêts. Nous sentons dans la prédication quand nous ne sommes pas prêts. Nous le sentons dans le message. Nous le sentons dans le témoignage. Seigneur, merci. Parce que tu nous as donné des ordres pressants. Je veux y répondre. Et je veux le faire, Seigneur, en obéissant à ta parole, tout simplement. Que Dieu en ait toute la gloire. Le monde a besoin. Il a besoin d'une armée qui se lève pour le servir. Il a besoin de frères et de sœurs. Il a besoin de jeunes gens, de jeunes filles. Il se sert même des enfants. Il a besoin de personnes âgées. Il y a quelque chose dont j'ai horreur. Excusez-moi, c'est pas souvent que j'ai horreur de quelque chose. Mais j'ai horreur quand des personnes d'un certain âge me disent « Oh, mais moi, je ne peux plus rien faire maintenant. » Mais c'est faux. C'est faux. D'une part, moi, je suis venu à la conversion parce qu'une grand-mère priait pour moi. Et ma jeune sœur. Et quand je regarde le poids des prières des grand-mères et des grands-pères, que de fois nos petits-enfants sont passés près de la mort et dans des moments difficiles, nos enfants téléphonaient tout de suite à maman et papa, prier. Et nous l'avons fait. Et Dieu les a sauvés à chaque fois. Alors ne me dites pas, parce que vous avez de l'âge, que vous ne pouvez plus rien faire. C'est faux. C'est le diable qui vient vous dire ça. Mais faites-le taire une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus les forces physiques que vous ne valez plus rien. Vous n'avez peut-être plus les forces physiques, mais vous avez la foi dans le cœur. Vous avez la confiance, vous avez l'espérance, vous avez l'amour de Dieu, vous avez un zèle pour le Seigneur. Christ vit en vous, vous avez le temps que Dieu se serve de vous. L'ordre du roi est pressant. Je ne sais pas si vous constatez comme moi, pourtant, les jours ont toujours 24 heures, les journées ont 24 heures, mais il me semble que le temps est de plus en plus court. On commence le lundi, on arrive au samedi, je me demande comment ça se fait. Vraiment, je ne sais pas, hein. Je me disais à la retraite, qu'est-ce que tu vas faire pendant la retraite? Mais je vous garantis que je me demande si j'étais pas plus moins occupé avant qu'après. Enfin, peut-être pas quand même. Mais Seigneur, tu sais toutes choses, le temps est pressant. L'ordre du roi est pressant. Pensez pas qu'il y a du travail à faire? Bientôt, il va venir prendre, enlever les siens. Et dans le ciel, nous aurons des fonctions différentes. Nous habiterons des endroits différents. C'est écrit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. D'accord? Ce n'est pas pour autant que nous serons spécialement avec notre femme ou notre mari. Parce qu'il n'y aura plus ni homme ni femme. Surtout s'il y en a qui ont eu deux maris ou deux femmes, pour ne pas dire plus. Vous voyez la différence? Mais une chose est certaine, frères et sœurs. C'est que nous vivrons là-haut en fonction de ce que nous aurons fait ici-bas. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres que nous faisons pour Jésus, témoigner, prier, visiter, etc., tout cela, ce sont des matériaux que nous envoyons dans le ciel pour qu'ils construisent notre demeure. Moi, je ne demande pas un palais là-haut, pourvu que j'y rentre. C'est tout ce que je demande. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. En tout cas, s'il n'y a plus de mari et de femme, il y aura quand même mon épouse. Elle sera un bel ange. Que Dieu nous aide. Le temps est pressant. Moi, je veux racheter le temps. C'est biblique, ça aussi. Racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Mais plus que jamais, Dieu veut manifester sa gloire à Dieu. Revienne toute notre adoration, reconnaissance de ce qui nous a sauvés et de ce que par sa grâce, il nous fait ouvrier avec lui. Que Dieu soit béni. Ouvrier avec Jésus. Vous imaginez travailler avec un tel patron? Je terminerai par là. Je rentrais d'Algérie, j'ai fait mon service militaire là-bas. Je rentrais d'Algérie et on m'avait parlé d'un certain évangéliste dont Dieu bénissait le ministère. Et après ma libération, j'assistais à une grande rencontre et j'ai entendu cet évangéliste prêcher. Je me souviens de la prédication d'ailleurs. J'étais touché dans mon cœur. J'ai dit, j'aurais bien aimé travailler avec lui. Et puis c'est tout. Et je suis rentré dans le ministère. Et le pasteur qui nous a baptisés, qui nous a mariés, etc., partait. Et l'homme qui est venu le remplacer, c'était l'évangéliste avec lequel j'aurais voulu travailler. Alors j'étais content. Eh bien imaginez-vous. C'est pas Guy votre patron. C'est pas Gérard Gaud votre patron. C'est le Seigneur. Et il est avec vous. Moi, je trouve ça formidable. Il est avec nous. Chaque jour, chaque instant, nuit et jour. Il peut même vous réveiller pour dire j'ai besoin de te parler dans la nuit. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que tu veux me prier? Vous imaginez, il travaille avec nous. Va, je suis avec toi. N'aie pas peur, je t'accompagne. Extraordinaire. C'est notre patron. C'est lui qui, en plus, en prend la responsabilité. Ça, j'aime bien. Prendre responsabilité, c'est pas facile. Mais quand lui les prend, c'est son problème. Nous, nous obéissons, mais ce qu'il dit arrive. À lui soit toute la gloire. L'heure du roi est présent. Ça presse de marcher, de travailler avec Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Oui. On commence quand? À la retraite? Non. Pourquoi pas commencer ce soir? Seigneur, si tu as besoin de moi, eh bien je suis disposé et disponible. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut prier le Seigneur quelques instants. Je laisserai la place à mon frère Girago, s'il veut terminer par la prière, priant pour que Dieu bénisse son Église. Alléluia. Tu veux prier, frère?
Alléluia. Oh, merci, cher Seigneur. Que Dieu te bénisse, cher Girago.
Notre Père, notre Dieu, nous croyons que dans ta bonté infinie, tu sais nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous voulons y prendre garde. Tu nous connais, tu sais où nous en sommes, tu sais ce que tu attends de nous, ce que tu as préparé, tu nous l'as dit, que tu avais préparé de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Eh bien Seigneur, nous savons que tu vas nous aider. Nous te demandons cette sensibilité, ce discernement, cette capacité de comprendre tes plans, puisque ta volonté elle est bonne. Seigneur, tu nous vois, nous allons nous quitter, nous séparer, mais nous croyons que dès cette réunion finie, tu peux nous indiquer par intuition, par direction, par divine. Seigneur, par les choses de la vie, tu peux nous indiquer un travail à accomplir. Tu vois les journées qui vont se dérouler à partir de demain. Donne-nous, Seigneur, cette grâce, oui, de faire, d'aller, de nous attendre à toi, de recevoir de ton esprit, de pouvoir parler de repentance aux inconvertis. Donne-nous, Seigneur, cette sagesse, cette intelligence que toi seul es capable de nous donner. Seigneur, bénis monsieur, madame Galifo, tu continues à bénir leur ministère, tu vois ce livre qui va être diffusé, s'il te plaît, qu'il puisse amener des croyants à une foi plus profonde et que le ministère de monsieur Galifo puisse encore apporter ta bonté pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Seigneur, garde-nous dans le creux de ta main, que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen.